L'après-midi sur Europe 1, vous êtes avec Isabelle Morizet. Y a-t-il plus français que Michel Sardou? Chanteur définitivement populaire, incarnant depuis près de 40 ans au rythme de ses tubes l'idée d'une certaine France, pays pourtant de toutes les contradictions. L'heure est à la mondialisation, mais Michel Sardou, du haut de ses 85 millions d'albums vendus, au bas mot parce que certains disent 100, et du haut de ses 800 chansons enregistrées, représente à lui seul l'exception française. Et elle n'a pas fini de courir. La maladie d'amour qui, à chaque nouvelle scène, pousse le public dans ses bras et fait déjà de son marathon à l'Olympia à partir du 6 octobre un triomphe annoncé. Le nouvel album a pour titre « Du plaisir » et c'est nouveau, Sardou maintenant sourit. La preuve.
Il a toujours souri.
Michel, vous dites on me prend pour un emmerdeur alors que je n'ai jamais emmerdé de personne. Donc ce personnage grande gueule, monolithique, redresseur de tort qui pendant 40 ans s'est embusqué derrière vos chansons, c'était pas vraiment vous.
Comment dire, j'ai toujours... D'abord il y a eu plusieurs époques. Il y a l'époque du jeune auteur que j'ai été, c'est-à-dire entre 18 et 25 ans on va dire. Alors à cette époque-là, quand vous écrivez des chansons, quand vous avez entre 18 et 25 ans, vous écrivez comme un torrent.
Avec l'envie de dire des choses essentielles.
Avec l'envie de dire des choses définitives, qui bien entendu sont complètement dépassées, et maintenant j'ai le contraire. Mais c'était pas quelque chose pour être grande gueule ou pour être dresseur de tort, c'était un torrent, comme ça. Ça sortait comme ça, ça venait comme ça. Alors comme j'étais le seul à le faire à peu près, à ce moment-là, on m'a mis une étiquette, évidemment, qui me colle au dos depuis 40 ans.
Michel Sardou, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous souhaitiez devenir?
C'est-à-dire que, pour être franc, je ne me souviens pas avoir souhaité quelque chose. Je ne me suis jamais vu, je n'avais pas imaginé au début cette carrière-là. J'avais envie d'être dans le monde artistique, mais je n'avais pas d'objectif au départ. Je ne m'étais pas dit la chanson... je m'étais plutôt dit l'acteur.
Mais oui, justement,
l'acteur
parce que
traditionnel, en plus d'acteur classique, le conservatoire, le et pour moi mon rêve inaccessible, mon inaccessible étoile, c'était la Comédie Française.
Mais voilà, d'ailleurs, les péripéties, l'aventure récemment du théâtre de la Porte Saint-Martin, vraiment nous ont donné le sentiment que, en fait, derrière le chanteur populaire que vous avez été pendant toutes ces années, eh bien, vous vous rêviez acteur, et qu'enfin vous alliez toucher du doigt.
Je vais peut-être vous surprendre,
un rêve de monde.
Mais je pense que on a oublié, parce qu'on oublie tout, mais les grands acteurs que nous aimons, que ce soit de gamin à Paul Meurice, en passant par Bourville, en passant par De Funès, viennent tous du musical. C'est pas du tout incompatible de venir du musical et d'évoluer comédien.
Mais ça veut dire que le musical, il faut pas y rester?
Oui, c'est ce que me disait Maurice. Il me dit, quand tu vas être un peu plus âgé, tu vas arrêter de faire tes conneries, tu vas faire un vrai métier, tu vas faire de la comédie. C'est ce qu'il me disait. Bon. Disons que pour moi, un homme qui chante ou un homme qui parle, ça repose sur deux règles. Il faut être audible pour être crédible. Il faut qu'on comprenne. Voilà, vous pensez à ce que vous dites, et il faut qu'on entende ce que vous dites.
Sauf qu'on a tendance à penser que le théâtre est un art plus noble que la chanson.
C'est peut-être un art plus vieux, plus noble, je ne sais pas, mais plus compliqué, vous adressez au public à travers un personnage qui est en face de vous, un partenaire, c'est-à-dire c'est indirect. Nous, on leur parle dans les yeux. Même si on parle dans les yeux de chacun, parce que ce serait pas possible, mais on a une façon de regarder la salle, on s'adresse à la salle et on parle de nous. Et la différence avec les comédiens de théâtre, c'est que les gens qui viennent nous voir savent d'avance ce qu'ils vont voir, s'ils connaissent les chansons par cœur en général. Alors que dans le théâtre, ils découvrent. Il faut les convaincre. C'est peut-être là où c'est un peu plus noble.
Alors, on va plonger dans le vif du sujet, du propos de cette émission. On va remonter avec vous le fil de la mémoire. Si je dis des choses fausses, bien évidemment, vous m'arrêtez immédiatement. Mais quand on a un arrière-grand-père qui était mime sur le Pont Neuf, un grand-père Valentin, comique troupier, deux grands-mères.
Le Pont Neuf, c'est beaucoup plus vieux.
C'est plus ancien encore.
Ah, oui,
ça remonte à d'autres générations.
Ah, oui,
les deux grands-mères meneuses de revue, c'est exact.
Les deux grands-mères, oui.
Oui, et donc des parents comédiens.
Oui.
Ça veut dire que finalement, ce métier, le vôtre, celui de saltimbanque, vous ne l'avez pas choisi. C'est lui qui vous a choisi.
Mais tous les métiers nous choisissent.
Vous le croyez?
Oui. Je pense qu'on ne choisit pas sa vie, elle nous choisit. J'ai l'impression que peut-être j'aurais pu faire autre chose. C'est le métier qui vous choisit. Quelle que soit d'ailleurs la profession.
Il paraît que la première fois que vous avez vu votre père sur scène, il était déguisé en ours, brossé à coups de bâton. Qu'est-ce que l'enfant que vous étiez alors a pensé de ce très étrange métier?
Il m'a fait honte. D'ailleurs, il était très en colère. J'avais honte. Vous voyez, mon père un peu ridicule. Il prenait des coups de bâton. Et j'avais oublié que Molière en prenait beaucoup aussi, d'ailleurs. Et en sortant, il me dit, si je prends des coups de bâton, c'est pour pouvoir te payer une éducation. Ça, j'ai jamais oublié. Ça l'avait vexé, et j'ai toujours regretté, d'ailleurs, parce que pour moi, j'étais un enfant, donc ça me faisait de la peine de voir mon père. Moi, j'y croyais, je faisais pas différence entre le théâtre et la vie privée, donc ça me choquait que mon père prenne des coups de bâton. Il m'a dit, mais si je fais le con, c'est pour te payer des études.
Et quelle atmosphère régnait à la maison chez les Sardou?
Assez spécial. Assez spécial. Bah, les comédiens sont des angoissés. Il y avait beaucoup d'inquiétude chez mon père, beaucoup de peur d'arrêt de travail. Je me rappelle très bien, je m'avais fait rire, il m'avait dit, je vais vous dire, je me rappelle plus, mais à 4 ans près, il avait un mois vide. Il était fini, quoi. Bon. Alors, ça créait une atmosphère un peu spéciale, parce que ma mère était une nerveuse, mon père était un calme. Mais comme tous les calmes, quand ils se mettaient en colère, c'était une tempête.
Alors vous, au milieu de tout ça, vous grandissiez comment?
Et moi, je grandissais dans une ambiance de branquignol. C'était assez intéressant à vivre.
Vous êtes un enfant de la butte Montmartre. Est-ce que le Montmartre de vos souvenirs valait celui des trois sucettes à l'amande de Robert Sabatier, ou bien est-ce qu'il était beaucoup moins bucolique?
Oh, moins bucolique quand même. Mais pas désagréable. C'était un endroit... en plus, c'est l'endroit de mes débuts. J'ai commencé, pour gagner ma vie, à chanter dans les cabarets. Les tout petits trucs, chanter les chansons de tout le monde. Oui, j'allais chez Patachou, au Tire-Bouchon. Enfin, j'allais partout. Et ce qui me permettait d'ailleurs de vivre. C'était assez sympathique.
Et ceux qui ont assisté en témoin à ces années-là racontent que vous étiez quand même la terreur du quartier, Michel Sardou.
Ah bon?
Et que vous alliez vous prêter contre ceux de la Trinité.
C'était l'époque, oui, c'était ça, c'était les bandes, c'était le West Side Story de la Trinité et de la Place Clichy.
Alors c'est pour cette raison qu'on vous a collé en pension à Jean-Josas au
Montsel? Non, on m'a collé en pension si je ne travaillais pas du tout à l'école, je m'en foutais complètement. Et mon père tenait énormément, parce qu'il avait, lui, il n'avait pas eu d'éducation pour des raisons. Il a fallu qu'il gagne sa vie très tôt, donc il n'a pas pu aller à l'école longtemps. Et il mettait un point d'honneur à ce que j'ai mon baccalauréat. Il m'a mis dans une pension formidable, où j'ai fait connaissance avec des gens que je vois toujours, Jean-Michel Ribes, par exemple, Garouste, le peintre que vous connaissez.
Modiano,
bien sûr, Modiano qui était là.
Est-ce que chacun, déjà à l'époque, savait ce qu'il allait faire de sa peau?
Ils étaient exactement les mêmes.
Vraiment? Donc ils savaient que...
Ribes faisait du théâtre, déjà. Moi je faisais le clown, Garouste dessinait et peignait d'une façon formidable, et Modiano était ce qu'il est, c'est-à-dire un grand muet.
Oui.
Il s'exprime assez peu. Et tout est loin pour lui. Je crois que son plus long voyage, c'est Lausanne. Voilà.
En tout cas, vous, à cette époque de la pension au Montsel, vous aviez imaginé un voyage infiniment plus rocambolesque, aventureux, puisqu'on m'a raconté que vous avez fugué un jour pour gagner le Brésil, où vous comptiez monter une boîte de striptease.
Oui,
elle est vraie, cette histoire?
Elle est à peu près vraie, pas tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux?
Ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, donc j'ai eu, pour faire plaisir à mon père, j'ai eu, à l'époque, le bac se faisait en deux parties. Mm-hmm. Il y avait le premier bac, le deuxième bac. J'ai eu mon premier bac, et puis je me suis rendu compte que moi, j'étais attiré par le monde artistique et par l'univers artistique, et je voulais m'inscrire à des cours d'art dramatique, je voulais plus aller vers... Et je me suis dit, ce que je suis en train d'apprendre là, ça me sert à rien. J'ai ce qu'il faut. Alors j'ai passé un deal avec mon père en lui disant lâche-moi, parce que je préfère aller bosser. Et il a ce réflexe formidable, il a ouvert la porte, il dit tu veux faire ce métier-là, il faut que tu en vives. Et il a refermé la porte.
Il n'a pas rouvert tout de suite la porte?
Non, il a rouvert pour me dire sauf si t'es malade. Sauf si t'es malade. Puis il a refermé. Et parallèlement au Montsel, donc j'ai voulu rompre, pas finir l'année, m'arrêter en cours d'année, donc j'ai commencé à plus rendre les copies, à faire toutes les conneries possibles pour me faire virer, en fait. Sauf que j'étais capitaine, parce que c'était un rôle, il y avait des grades comme à l'armée, et que c'est plus difficile de virer un capitaine qu'un simple soldat. Donc j'ai fait une fugue avec un copain, et j'ai été prendre un ticket à Orly pour aller au Brésil.
Ah, vous voilà. Êtes tout de même allé jusqu'à l'aéroport?
Et les gendarmes m'ont arrêté, évidemment, à l'aéroport, et je suis rentré à la maison entre deux gendarmes. C'était un peu Boris Vian, mais en gentil.
Peu Boris Vian, mais la boîte de striptease...
La boîte de striptease, on l'a envisagée à un moment donné.
Elle était envisagée.
On l'a envisagée, mais c'était plus pour l'audition que pour l'avenir.
Alors, comme au début de cette conversation, Michel Sardou, vous nous avez confié qu'effectivement, au départ, vous rêviez beaucoup plus de conservatoire et de comédie française. Comment se fait-il que, finalement, vous êtes devenu chanteur?
le hasard, les rencontres, Fugain, qui écrivait des chansons, qui lui voulait être metteur en scène d'ailleurs. Et on passait des soirées ensemble. Je crois même qu'on a partagé un appartement ensemble. Je crois à l'époque on était plusieurs, on habitait dans le même appartement. Ça nous aidait, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on partageait les loyers. Et on écrivait des poèmes, des choses comme ça. Et un jour, je ne sais plus lequel d'entre nous dit « on devrait aller les montrer ». Et il y avait des auditions publiques, dont une qui était faite par Barclay, Avenue Hoche, dans les studios de l'Avenue Hoche. Donc on y va. Mmh. Et Fugain me dit « tu les chantes parce que moi je... »
J'ose pas.
C'est pas mon truc. Alors je chante les chansons. Et il m'engage. Ma grande surprise, il m'engage pour me faire un disque. Et j'ai l'honnêteté de dire à l'homme qui m'engage, qui s'appelait La Marche, je dis, vous savez, mais je m'en fous complètement. Moi, je veux pas faire un disque. Je suis venu vous montrer des chansons comme ça. Si ça plaît à quelqu'un, vous les donnez à qui vous voulez. Mais je veux pas les chanter moi. Je suis pas chanteur, j'ai pas de voix, pas beaucoup, etc. Et j'ai fait mon premier disque quand même. J'en ai vendu une bonne dizaine, dont 9 achetés par ma mère.